Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci également aux organisateurs, Elodie Georgievitch et le professeur Denis Barranger, pour m'avoir convié à ce beau colloque. Hegel a toujours été considéré comme le théoricien de l'État plutôt que comme un théoricien du droit, étant surtout soucieux d'assurer la puissance publique politique plus que sa limitation ou plus que le droit des sujets. Si Norberto Bobbio mettait en relief un certain usage peu rigoureux de la notion de droit de la part du philosophe allemand, Michel Villet, de son côté, arrivait à soutenir que pour les juristes, le droit commence où s'arrête Hegel. C'est à Hegel même d'ailleurs que l'on peut attribuer les origines de ce préjugé, non seulement en raison de la polémique qu'il a vue adversaire d'un juriste comme Savigny, mais aussi en vertu de certaines expressions qu'il emploie et qui semblent révéler une hostilité à l'égard du droit des juristes. Celui-ci a été défini comme droit formel et abstrait, terme notamment pas positif chez Hegel, dûment de premier abord, à tel point que, comme il écrit dans l'encyclopédie, le droit ne doit pas être pris uniquement comme le droit juridique borné. En outre, comme il est connu, Hegel n'admet pas un pouvoir judiciaire autonome selon la division des pouvoirs classiques, ce qui a contribué à l'image du philosophe comme antagoniste ou du moins critique du droit au sens strict. Vouloir ainsi rechercher une théorie du droit dans les grandes lignes conduirait à mal comprendre les propos explicites de l'auteur qui vise plutôt à présenter une science philosophique du droit dans laquelle le droit est identifié aux items, à l'éthicité, et l'État à l'effectivité de l'idée éthique. Et pourtant, depuis quelques années, la mise en cause de l'absolutisme hegélien est allée de pair avec une réévaluation d'Hegel en tant que penseur du droit, comme en témoigne par exemple les regains d'intérêt à l'égard de sa conception de la peine, ou une certaine influence qu'il a eue depuis quelques années sur les American Critical Legal Studies. Depuis, la querelle qui avait vu opposer l'interprétation libérale et celle totalitaire quant à la conception de l'État, s'est d'une certaine manière répercutée sur le terrain juridique, de telle sorte que dans ces cas, la controverse tient à la possibilité de rallier Hegel parmi les naturalistes ou bien parmi les positivistes. Dans ce cadre, l'attention des spécialistes s'est concentrée sur certaines sections des principes de la philosophie du droit, notamment sur le droit abstrait, en questionnant le rapport entre rationalité, positivité et historicité du droit, ou bien en discutant les statuts qu'Hegel attribue au droit subjectif, en particulier aux droits fondamentaux. En revanche, il me semble qu'une mineure importance a été accordée à d'autres sections des principes, notamment à l'administration du droit, qui, bien qu'évidemment citée par les différentes études, n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi. Cela a pour conséquence le fait que la société civile continue à être considérée par les études hegéliennes plutôt une société de marché qu'une société juridique et que l'on met en évidence la division en États plus que l'apparat administratif de la justice. C'est pourquoi je me propose dans cette communication, comme l'annoncent les titres, d'aborder les droits tels qu'ils se dessinent entre société civile et État, et donc, dans un premier moment, d'approfondir la fonction accomplie par les droits au sein du social, c'est-à-dire au sein d'un champ de rapport par définition non politique, et ensuite de mettre en relief les moments proprement politiques du droit, à savoir son application et sa création. Il s'agira ainsi d'aborder les droits sous le prisme de la positivité, selon l'idée que le droit est le Gesetzsein, être posé donc loi, en évacuant toutefois la polémique avec l'école historique, tout comme en lançant de côté la question de son rapport avec le droit rationnel ou le droit philosophique. Bref, étant donné que le sous-titre du principe est droit naturel et science de l'État, on se placera plutôt du point de vue du deuxième terme. S'est penché sur le droit tel qu'il est présenté dans la société civile, signifie l'étudier en tant qu'ordre juridique, c'est-à-dire dans sa signification générale, en tant qu'ensemble de règles qui sont valables au sein d'une communauté organisée et qui définissent et dirigent les rapports entre ses membres. En particulier, on étudiera ce que Gegel définit dans le paragraphe 157, la rex verfassung, constitution juridique. Bien que cette expression ne soit qu'un apax dans les principes, elle est également présente au sein du manuscrit de Van Mann qui constitue, comme il est connu, la première formulation de la société civile. Il sera ainsi question de mettre en relief la société civile comme « gesetzliche Zustand » afin de mettre ensuite en rapport cette « Rechtsverfassung », cette constitution juridique, avec ce qu'Hegel définit dans les mêmes paragraphes, la « Staatsverfassung », la constitution politique, en établissant ainsi lui-même une sorte de parallélisme entre les deux formes des constitutions. Si, comme il est connu, Hegel dénonce la confusion entre société civile et État, c'est parce qu'il résulte, d'une certaine manière, l'un l'opposé de l'autre. La première a comme but l'intérêt des individus singuliers comme tels, à tel point que la liaison entre ses membres se réalise sous les signes d'une Gemeinsamkeit, soit d'une association. En revanche, l'État se caractérise comme véritable Vereinigung, et pour ça, il ne peut pas avoir comme fondement les contrats. Tandis que l'État, dans l'État, l'individu parvient à sa liberté substantielle, la société civile assure de son côté la liberté formelle. Si l'État hegelien anticipe à certains égards la notion d'État de droit, d'un point de vue juridique, la société civile est le lieu d'épanouissement du droit privé visant à protéger la propriété de l'individu, alors que le droit étatique interne, en tant que droit public, subordonne la sécurité des individus aux exigences de l'universel. Dans ce cadre, la Rechtsverfassung permet de revenir sur cette opposition. Même si cette expression correspond au paragraphe consacré à l'administration du droit, de telle sorte qu'il y a entre les deux formules une sorte de, que les deux formules sont d'une certaine manière synonymes, il est possible, d'une certaine manière, de l'associer à la police dans la mesure où tous les deux se placent à la charnière entre le social et l'étatique. Dès lors, le droit constitue une composante de la société civile qui, est, en tant que telle, est d'une part indépendante à l'égard du pouvoir politique et de l'autre, en découle. De telle sorte que le rapport entre société civile et État correspond au niveau juridique, à la relation entre administration et législation. S'il est possible d'attribuer au droit une certaine autonomie en tant qu'il est à l'œuvre dans l'espace social, il s'agira en même temps de souligner qu'en tant que moment subordonné à l'État ne peut être qu'émanation de celui-ci. Cela touche évidemment le cœur de l'une des problématiques propres à l'éthicité moderne, à savoir la tension entre la poursuite de l'intérêt et des biens individuels assurés par les droits privés et la nécessité de garantir la cohésion de la communauté et de parvenir à l'universel. Si le droit privé correspond sur le plan juridique au principe inconnu à Platon, soit au droit de la particularité et au développement de la liberté individuelle, il doit être pourtant sous le contrôle de la puissance publique, notamment de l'intervention gouvernementale et du pouvoir législatif. Dans cette contribution, je chercherai dans un premier temps à esquisser la fonction accomplie par le droit au sein de la société civile. Ensuite, je me concentrerai sur les paragraphes de l'administration du droit dans l'objectif de mettre en relief que la Rechtsverfassung permet de sortir d'un point de vue strictement intersubjectif et partant privatiste, déjà dans la société civile. Enfin, je me pencherai sur le droit étatique interne, notamment en examinant le pouvoir législatif et gouvernemental au miroir, d'une certaine manière, en tant que moment d'élaboration et d'application du droit. Le droit dans la société civile. La société civile se caractérise par son autonomie vis-à-vis de l'État en tant qu'espace pré-politique traversée par les contradictions incarnées par la subjectivité moderne. Elle coïncide avec le plan développement de la particularité du sujet qui poursuit ses besoins et ses intérêts à tel point qu'elle se présente, elle est présentée comme il est connu, comme système de l'atomistique. C'est pourquoi elle est à tous les effets une société d'individus, soit une multitude plutôt qu'un peuple. Elle est le lieu de l'intersubjectivité où la liberté se réduit à l'arbitre et les sujets se relient entre eux selon une modalité d'attraction et de répulsion. L'ordre de la société civile est un ordre produit par la spontanéité des relations et par des liens horizontaux. Mais il apparaît néanmoins en tant qu'ordre naturel plutôt que secondo naturel, c'est-à-dire comme une nécessité inconsciente. En mettant en place un processus de socialisation et d'intégration, mais en produisant à la fois une dynamique d'aliénation et d'exclusion, la société est, je cite, le champ de bataille de l'intérêt privé individuel de tous contre tous, à tel point qu'elle renferme en soi un résidu de l'état de nature. Cela dit, loin d'être une condition d'absence du droit, comme la référence à l'état de nature pourrait le faire croire, la société civile constitue le lieu par excellence d'épanouissement des droits subjectifs et d'effectuation du droit objectif, dans la mesure où la construction juridique concourt à mettre en place l'universalité et l'abstraction propres à la société civile. C'est précisément car il intervient dans le domaine de la particularité que le droit est placé dans la société civile. Sa tâche principale tient à la protection de la propriété et il se distingue en tant qu'outil par lequel garantir la sécurité des individus comme personnes privées et en même temps permettre à ces individus de satisfaire leurs intérêts et leurs fins particulières. Dans l'éthicité moderne, le droit coïncide avec l'effectuation des principes jusnaturalistes qui nous sont d'une certaine manière livrés par Hegel dans les droits abstraits. De telle sorte que le droit est au premier abord le droit de la volonté subjective et par conséquent, il assume la forme de droit subjectif et de liberté individuelle. Les titulaires de ce droit étant les bourgeois, il s'agit notamment de droits non politiques, à savoir de droits qui relèvent de l'individu en tant que sujet de besoin. L'individu est ici personne concrète, l'homme à proprement parler, comme le précise Hegel, qui cherche sa satisfaction et agit selon le caprice, l'opinion et le bon plaisir subjectif. Être personne concrète signifie pour Hegel pouvoir librement affirmer sa propre personnalité, notamment en cultivant ses talents et ses aptitudes, en choisissant son activité professionnelle et en constituant son propre milieu d'appartenance. En raison du travail d'abstraction accompli par les droits, l'individu de la société civile est dépouillé de toutes les caractéristiques qui en font un individu particulier. Et tous sont égaux face à la loi en tant que titulaires de droits, à l'encontre des différences qui tiennent à leur naissance, à leur métier ou à leur patrimoine. La société civile suppose ainsi le premier socle des droits individuels en partant du présupposé de l'égale liberté par laquelle l'individu est reconnu en tant qu'homme et jouit d'un espace d'indépendance à l'égard du pouvoir politique. Et pourtant, l'individu est personne parmi les autres personnes et pour les autres personnes, de telle sorte que les relations qui s'engendrent de la société civile ne se bornent pas à des rapports d'indépendance réciproque. De même que le besoin se multiplie, les interactions se complexifient et contribuent à l'interdépendance des acteurs sociaux. Il s'ensuit que chaque individu est porteur de besoins toujours nouveaux, de revendications subjectives, ainsi que de demandes de reconnaissance des différents types qui peuvent dépasser les cadres strictement individuels, notamment par la revendication des intérêts collectifs. Dès lors, les contrats qu'Hegel critique comme fondement du droit public comme principe de légitimité de l'État, acquiert une nouvelle importance au sein de la société civile en permettant la réunion des volontés des contractants et en résultant un élément de médiation précisément en tant que moyen d'échange. Ces limites en tant que source d'obligation du citoyen, et notamment pour ce qui concerne les relations éthiques, constituent en revanche des avantages sur le plan social en vertu de sa capacité d'universalisation et de formalisation. Dans la mesure où il sert à régler les rapports intersubjectifs, les contrats dépassent la frontière du droit privé au sens strict en se caractérisant comme moyen de satisfaction du besoin au sens large ainsi que comme moyen de socialisation. La législation évolue selon les modifications de la société civile au fil des décennies, en prenant en compte la spécificité des nouvelles formes productives, mais aussi les diverses modalités d'association des individus, comme les corporations, les regroupements sportifs, religieux, culturels, ludiques, auxquels les individus donnent lieu au-delà du cercle familial restreint et en dessous du cadre politique. L'impossibilité d'établir un code complet dépend donc de l'objet même que le code doit régler, c'est-à-dire la société civile, qui échappe constitutivement au maillot. Mais
Ah,
Salut.
oh, oui,
Ouais.
Élodie,
Ouais.
on a eu un problème de connexion là. Vous nous entendez, Shamina?
J'ai l'impression que c'est bloqué, que son image est bloquée. Elle
Ouais.
m'avait prévenu qu'elle avait eu des petits problèmes en fin de matinée. Alors, je vais l'appeler pour la prévenir. Sabina?
Moi, je vous entends.
Ah, d'accord.
Ah.
Nous, ça bloque parfois.
Ah, d'accord.
Là, ça a bloqué.
Mais
Ouais.
vraiment, juste, enfin, il y a
Je vais peut-être
quelques.
tenter de couper la vidéo. Ça
Ouais.
marche. Ouais.
Ah, d'accord.
Désolé, on aura le son, mais pas l'image.
Est-ce qu'on doit aussi couper, nous, Denis?
Je ne sais pas ce qui marche le mieux, je ne suis pas très technicien.
Ouais.
Ça m'ennuie qu'on ne voit pas Sabina pour l'intervention, c'est quand même très dommage.
On peut faire un deuxième essai, Sabina, et si ça bloque à nouveau, on prend la
D'accord.
solution
On sera à la
qu'on
radio.
propose. Voilà.
On n'aura plus la télé, mais on aura la radio. Désolé, Sabine.
On continue le reportage. Allez, Sabina, reprenez.
Alors, tout comme il n'est pas possible de fabriquer une constitution politique ou de donner à un peuple une constitution, comme l'a fait Napoléon en Espagne, de même, serait pour Hegel absurde la prétention de créer un code a priori, les codes devant être d'une certaine manière à l'écoute de la société, en étant à même d'intégrer dans son sein ce qui en ressort. Il est possible de souligner que la société civile est créatrice du droit en tant que lieu d'émergence des pratiques et des relations qui nécessitent d'une réglementation juridique. Même pour Hegel, d'un point de vue, pour en dire phénoménologique, c'est au social, au sein du social, qui s'engendre le droit, dans la mesure où le droit n'étire pas son raison d'être uniquement de la volonté de l'État, notamment car la naissance des droits subjectifs tient à l'évolution de la vie sociale plutôt qu'à l'imposition d'une volonté supérieure. C'est pourquoi, dans les sillages de la conception hegélienne du droit comme effectuation de la liberté, aussi dans la société civile, le droit ne vise pas à limiter la liberté, étant au contraire ce qui confère une dimension universelle et qui contribue à l'épanouissement de l'individu, même si ce dernier n'est que volonté naturelle et arbitre. L'institutionnalisme hegélien résulte ainsi du fait que le droit s'avère être aussi, pour Hegel aussi, forme du social en tant qu'il permet la stabilité des conduites. Le droit constitue le médium par lequel chaque individu peut se rapporter à un autre individu inconnu qui n'appartient pas à sa sphère intime et amicale, en permettant la création et également la reproduction d'un ordre impolitique composé des rapports impersonnels à travers l'universalisation de volonté et des désirs des bourgeois. Non seulement le droit est un phénomène de la vie sociale, mais la vie sociale s'est produite grâce au droit, sans lequel elle ne serait qu'un ensemble d'individus en conflit, d'atomes qui ne pourraient pas se relier entre eux. D'une part, les bourgeois peuvent jouir de droits en tant que personnes et ainsi être acteurs à plein titre dans la vie sociale. D'autre part, la société devient elle-même objet du droit, à tel point que c'est seulement dans la mesure où elle est organisée par le droit qu'elle peut se constituer comme un monde. On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'à l'encontre de Marx, le droit n'est pas une superstructure, mais il est plutôt structure même de la vie sociale et par conséquent les traits saillants de l'éthicité moderne, à la différence de l'éthicité grecque et au même titre que l'économie politique. Par le droit, le moment de la liberté subjective peut être regardé comme le point de vue substantiel, l'individu pouvant prendre pour fin son bien-être et d'être ainsi reconnu par ses concitoyens et par l'État, notamment sous la forme de droit. Le droit à la frontière entre social et politique. À l'instar de la société civile, qui s'articule à partir de deux principes opposés, de même, le droit, d'une part, ambitionne à la forme de l'universalité, notamment dans la mesure où il implique une égalité des traitements en faisant abstraction des circonstances particulières, de l'autre est obligé à descendre sur le terrain de la particularité comme il résulte de la nécessité de pouvoir être appliqué à la lumière des circonstances particulières. Dès lors, Hegel assume pleinement les contradictions immanentes au droit lui-même, notamment en tant qu'il n'est pas une norme transcendante, mais il est mêlé à des éléments empiriques et contingents qui relèvent de sa mise en œuvre. Il n'est pas identifié à la justice et il peut, d'une certaine manière, à tout moment, être injuste. Étant ce qui ressort de la décision ou de la détermination quantitative, à la fois ce qui est nécessaire, mais qui peut se révéler comme arbitraire. L'enjeu de la construction juridique est ainsi de réunifier d'un côté le droit de la particularité et de l'autre le droit de l'universel, qui résulte être le fondement et la forme nécessaire de la particularité. Tout en procédant des besoins subjectifs, le droit n'est pas à la merci des intérêts privés, mais se distingue comme dispositif d'universalisation qui intègre les intérêts sociaux organisés au sein de l'universel. S'il est vrai que les titulaires de droit sont les bourgeois, il est vrai aussi qu'il n'existe pas de principes juridiques absolus, car ces droits ne sont que des simples propositions abstraites sans l'intervention d'une volonté dotée du pouvoir de les établir et de les garantir. Le droit a validité et efficacité dans la mesure où il dispose de structures objectives et coercitives permettant le déroulement de la vie sociale et par conséquent, comme on le verra, il témoigne de la présence de l'État au sein de la société civile. Comme il est bien connu, les termes « faire face » renvoient non seulement à l'ensemble des textes que quelqu'un devrait rédiger, mais plutôt à un ensemble d'institutions dont une communauté se dote, notamment des tribunaux et des cours de justice. Ces institutions ont pour tâche spécifique d'intervenir lors des collisions, à savoir des conflits qui peuvent surgir, mais elles accomplissent également un rôle de bildung à l'égard de la volonté naturelle, et en même temps, elles se font d'une certaine manière porte-parole de l'universel. Si d'une part, l'individu peut ressentir l'obligation même comme une contrainte par rapport à son arbitre. D'autre part, les obligations auxquelles il est tenu de se soumettre découlent de son libre choix, dans la mesure où il peut choisir son travail et les institutions auxquelles s'investir. La soumission à l'action de justice et aux procédures des juridictions a toutefois un caractère socialement nécessaire, comme partie constitutive de la vie en société au même titre que le travail ou l'appartenance à une classe. Tout comme le droit dans son sens général est le règne de la liberté, de même, le droit de la justice civile est le règne de la loi à laquelle on est tenu d'obéir. Le bourgeois a ainsi à la fois le droit de saisir le tribunal et l'obligation de se présenter devant le tribunal, de telle sorte qu'au droit d'être jugé correspond le devoir d'accepter les décisions du juge. Par l'administration du droit, l'individu apprend à faire abstraction de sa particularité, à se reconnaître égal aux autres et à se soumettre aux décisions de la justice au-delà de son arbitre. Hegel insiste à ce propos sur la proclamation publique des lois, sur la publicité de l'administration du droit, ainsi que sur la participation des citoyens au jury populaire. D'une part, comme l'État moderne repose sur les savoirs et vouloirs des individus, ces derniers ont le droit à la connaissance et peuvent exercer un contrôle sur l'étendue des actions judiciaires. D'autre part, ces principes d'Öffentlichkeit concourent à élever la subjectivité au point de vue de l'universel, de telle sorte que l'administration du droit contribue à développer chez l'individu la culture pratique et théorique qui fait de la justice civile le lieu de rationalisation du vouloir. L'administration concerne notamment la justice pénale. Il s'agit de la transposition de l'une des catégories du droit abstrait, la coercition, qui subit toutefois une profonde modification par rapport à la formulation qu'Hegel en fait dans les premiers moments de l'esprit objectif. Tandis que dans le droit abstrait, la peine coïncidait avec la vengeance, dans les cas de la justice civile, la punition sort d'une logique privatiste, n'étant plus affaire de la volonté particulière. Comme le souligne Hegel, je cite, « fait ainsi son entrée le point de vue de la dangerosité de l'action pour la société. Si d'une part c'est la loi et non la volonté subjective avoir été atteinte, de l'autre c'est au juge et non pas à la victime qui revient la fonction de punir le coupable. » Au-delà des conséquences que cela entraîne au niveau de la conception de la peine et de la théorie pénale hegelienne, il convient de souligner qu'avec le tribunal intervient, je cite, la puissance publique au sein de la société civile. Au-delà de l'arbitre de la décision, les juges se distinguent des parties qui s'affrontent dans le litige et il n'est guidé dans sa décision que par l'intérêt du droit, à savoir pour l'universel. Comme le précise Hegel, je cite, « le tribunal connaît et agit dans l'intérêt du droit comme tel. » Il est également question du droit civil. Si dans le droit abstrait, l'individu devenait propriétaire par la prise de possession, dans la société civile, où tous sont déjà propriétaires, la propriété repose par contre sur les contrats et peut être limitée et confisquée. Ce n'est pas l'usage ou l'aliénation du bien de la part de l'individu qui légitime les droits du propriétaire, mais les droits du propriétaire sont définis sur la base de la régulation sociale, la société déterminant les conditions d'acquisition du bien et de leur distribution. Hegel reconnaît à ses propos un droit de détresse, quitte à admettre la violation de la propriété d'autrui. Si la détresse témoigne de la contingence du droit et du bien-être, elle montre également que l'universalité du droit peut être un rempart en vue d'assurer la particularité des intérêts de la volonté naturelle. Déjà dans la justice civile, alors la question de la protection de la propriété s'étend à la nécessité de la tutelle de la vie selon une instance de justice sociale qui va de pair avec l'égalité juridique. Même si l'administration du droit ne doit pas être assimilée à la police, il est possible de souligner que dans les deux cas, il est en cause la possibilité que les ravages produits par la sphère économique soient gérés tant que possible par un pouvoir objectif et supérieur. Même s'il s'agit d'un ordre externe dans les cas de la police ou de la sphère du relatif dans les cas du droit, tous les deux représentent la puissance publique en accomplissant un travail de réglementation. En tant que para-public autonome organisé, la constitution juridique correspond à la présence de l'État au sein de la société civile, dans la mesure où elle vise à résoudre les collisions produites par l'arbitre, à mettre un frein au particularisme et à assurer la primauté de l'universel. En reconduisant les intérêts particuliers à l'intérêt général, elle s'avère être le bras par lequel l'État intervient à régler la vie sociale et concourt au travail de réconciliation entre société et État. Si en effet l'État moderne ne peut exister sans la société civile, en même temps la société n'est pas un contre-pouvoir qu'il exerce sur l'État. L'État défend la société civile d'elle-même en lui empêchant de s'écouler par les conflits. À tel point que pour Hegel, il n'y a pas de société civile sans État, mais au contraire, c'est la société elle-même, dans ses effets, qui appelle l'intervention de l'État. Dès lors, déjà dans la société civile, se profilent les passages du droit privé au droit public. Le droit qui est présenté au premier abord comme droit privé résulte déjà à ce niveau comme droit public, non seulement car le deuxième est à l'origine du premier, mais aussi parce que la présence des institutions qui s'occupent de l'application du droit renvoie nécessairement à l'État. Le but de la Constitution étant de faire en sorte que les besoins subjectifs ne soient pas une menace pour l'universel. Ainsi, affirme Hegel de manière très claire, l'administration de la justice doit être considérée comme une obligation, tout comme un droit de la puissance étatique. Bien que alors le droit ne permette pas de racheter la société civile du résidu de l'État naturel, c'est uniquement grâce au droit que la Bürgerliche-Gesellschaft ne dégère pas en pure violence ou en l'affirmation du droit le plus fort. Cela dit, la société civile n'est pas le lieu d'élaboration de lois qui sont présupposées, l'universel se présentant sous la forme de l'extériorité en tant qu'ordre non conscient. Hegel souligne à ce propos la nécessité de distinguer le rôle des juges de celui du législateur, à l'instar de la distinction entre entendement et raison. Si le juge accomplit un rôle incontournable qui tient à la subjonction du particulier, c'est-à-dire à la décision, ce n'est pas lui qui revient à la tâche universelle de poser le droit, ce qui risquerait de faire tomber le droit dans l'arbitraire de la volonté individuelle. On passe alors au troisième moment, c'est-à-dire la création et l'application du droit, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs gouvernementaux au miroir. L'activité de législation ainsi que celle d'administration sont traitées par Hegel au sein de la constitution politique, qui, comme il est connu, correspond à l'organisation de l'État et au procès de sa vie organique en relation avec soi-même. À l'encontre du despotisme qui a de la volonté arbitraire de l'individu les fondements du pouvoir, la constitution politique entraîne un processus de différenciation interne à l'État. Selon le modèle de l'organisme, la constitution indique pas seulement les fondements légaux du pouvoir, étant aussi ce qui permet de constituer les peuples en tant que sujet politique et à l'État d'agir en tant qu'individu. Au sein du syllogisme des pouvoirs qui caractérise la monarchie constitutionnelle, le pouvoir législatif et celui gouvernemental semblent à première vue se caractériser de manière opposée. Le premier...
Sabina, il nous manque un bout. Est-ce que tu peux essayer de couper ta caméra peut-être ? Je ne sais pas si tu m'entends.
Vous pouvez joindre Sabina, peut-être.
Je vais l'appeler.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, moi je vous entends, Sabina.
Vous m'entendez tous ? Élodie m'appelle.
Oui, Sabina, on t'entend, c'est bon.
Parfait, d'accord. Désolée, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez pu entendre.
L'opposition, pouvoir gouvernemental, pouvoir législatif, tu étais en train de poser la manière dont apparemment il se présentait comme opposé.
Merci. Donc, tandis que le pouvoir législatif vise à déterminer et à fixer l'universel en ayant comme objet la législation universelle, le pouvoir gouvernemental s'occupe de la subsumption des sphères particulières et des cas singuliers sous l'universel, ayant comme objet la poursuite et le maintien en l'état de ce qui a été décidé. Le pouvoir législatif établit les lois qui concernent l'intérêt général de la communauté politique, alors que le pouvoir gouvernemental a pour visée l'application et l'exécution des lois issues du pouvoir législatif et des décisions du prince. Et il se caractérise comme Verwaltung, notamment en ayant parmi ses fonctions l'administration du droit et la police. Dès lors, si le pouvoir législatif correspond à l'universalité et le pouvoir gouvernemental à la particularité, le rapport tient à la capacité de médiation entre société civile et État. Au niveau ascendant de la société civile à l'État, à travers la représentation des intérêts, et au niveau descendant par l'exécutif et les institutions administratives. C'est pourquoi, loin de correspondre à des instances indépendantes, le pouvoir gouvernemental et législatif résulte coopérer et collaborer dans le seul but de formuler l'intérêt général incarné par l'État et de développer l'essence de l'État chez les citoyens. C'est de premier abord au pouvoir législatif qui revient à la tâche de médiation du social et du politique, car il transfère sur le plan politique les revendications qui ressortent de la société civile et leur donne la voix en évitant qu'elles se constituent en opposition à l'État. En même temps, le pouvoir gouvernemental, de son côté, ne s'épuise pas dans un rôle exécutif, mais dispose à son tour également des prérogatives législatives en plus du travail administratif, bureaucratique et judiciaire. Le pouvoir législatif correspond à l'activité politique à proprement parler de la politische Verfassung, ayant pour fonction de déterminer toute question concernant l'ensemble de la communauté et tout ce qui relève des affaires de l'État dans sa globalité. Il s'effondre sur la Constitution, mais en même temps, la Constitution ne pouvant pas être assimilée à la loi fondamentale telle qu'on la comprend aujourd'hui, ses pouvoirs, les pouvoirs législatifs, concourent à son développement ultérieur grâce à l'élaboration, à la détermination progressive et au perfectionnement des lois. Cela exclut alors toute forme de contrôle des constitutionnalités en montrant au contraire que la Constitution n'est pas quelque chose de figé, coïncidant plutôt avec la vie d'un peuple. C'est au pouvoir législatif qui revient la tâche des codifications. L'acte de légiférer correspond, dit Hegel, à l'acte de penser. De même que la pensée ramène, je cite, les contenus à sa forme la plus simple et partant lui donne sa déterminité ultime, légiférer signifie énoncer quelque chose comme une règle valable pour tous et par conséquent correspond au fait de porter au niveau de l'universel ce qui se présente sous la modalité subjective et contingente. Hegel explique le rapport entre coutume et loi à travers l'expression « Übergehen ins Leben », passage à la vie. La législation est un travail de rationalisation et d'universalisation qui se réalise à travers un processus de prise de conscience. Dès lors, le pouvoir législatif codifie ce qui ressort du social et en élargissant de manière progressive son domaine. Le développement de la société civile a pour conséquence, au niveau juridique, la transformation progressive du droit privé en droit social et la nécessité d'enrichir les champs protéiformes des droits, par exemple en ayant prévu le droit du travail ou à présent en envisageant en forme de réglementation de ce qui relève de l'usage d'Internet ou des outils informatiques. Si par le pouvoir législatif, la sphère de la particularité accède au pouvoir et à la signification politique, cela entraîne, comme il est connu, le dépassement de tout point de vue privé et partiel. Loin de coïncider avec le mode démocratique d'élection et avec la désignation des mandataires, ce qui renverrait à une logique privatiste, le pouvoir législatif a son pivot dans le Parlement qui reflète la composition de la société civile et assure l'intégration institutionnelle des intérêts sociaux. De son côté, loin d'être identifié à un pouvoir répressif, le pouvoir gouvernemental assure la subordination effective de la société civile à l'État par les pouvoirs judiciaires et policiers, mais en même temps fait en sorte que l'État se répande dans la société civile. C'est pourquoi ce pouvoir a comme tâche, je cite, de faire valoir l'intérêt universel au sens des fins particulières qui caractérisent la société. Et ce faisant, il a comme but le maintien de l'État en s'occupant de la gestion des institutions à tous les niveaux. Il assure la subordination de la sphère économico-juridique à celle politique et il fait ça parce qu'il garantit la présence de l'État, je cite, là où la vie civile est concrète et parce que son activité, je cite à nouveau, s'exerce vers le bas, notamment à travers la figure du fonctionnaire qui est à la tête des corporations, des différentes associations professionnelles, des diverses communautés locales et d'autres types de collectivités organisées. En tant qu'organe de publicité de débat qui permet la formation d'une opinion publique cultivée, le Parlement, et en particulier la deuxième chambre, permet à la structure pré-politique, notamment économique, de s'inscrire au sein de l'État et donc aux intérêts particuliers de remonter au niveau étatique. Les députés ne sont pas porteurs d'un intérêt particulier, mais ils sont au contraire représentants de l'une des sphères essentielles de la société, des représentants de ces grands intérêts. D'autre part, l'État médian, appelé aussi l'État universel à qui revient le pouvoir gouvernemental, est composé des élus
Alors là, je ne sais pas, peut-être qu'on éteint tous nos vidéos, je ne sais pas si ça pourrait aider. Je ne sais pas si tu nous entends, Sabina.
On pourrait essayer ça, Élodie. Est-ce que vous avez un moyen de la joindre par...
Oui, je vais l'appeler. Je vais l'appeler.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui.
On vous entend et on a tous arrêté plus ou moins la vidéo. Est-ce que vous pouvez reprendre...
Donc, je disais que, d'une part, le pouvoir législatif a dans le Parlement son pivot. D'autre part, c'est l'État médian, que Hegel appelle aussi État universel, à qui revient le pouvoir gouvernemental, pouvoir qui est composé des élus, des recrutés et des personnes nommées par les princes sur la base de leur attitude à se consacrer à l'universel. Les fonctionnaires et dans l'État hegelien, je cite, les domestiques de l'État, qui supposent les sacrifices de l'intérêt personnel et des fins subjectives et qui a un rôle de chaîne de transmission au sein de l'État. De haut en bas, dit Hegel, il assure la puissance des institutions de la souveraineté. De bas à haut, il assure la présence des droits des corporations au niveau politique. Dès lors, bien que les États et les corporations recouvrent un rôle décisif au sein du pouvoir législatif en tant qu'organe médiatisant entre le gouvernement, les princes et les peuples, c'est au niveau du pouvoir gouvernemental qui se joue ce qu'Hegel définit les secrets du patriotisme, notamment car l'esprit des corporations se renverse à un esprit d'État et par conséquent, on parvient à l'enracinement du particulier dans l'universel. Karl Marx d'abord et Eric Weil ensuite ont souligné que l'État hegelien est un État d'administration où le pouvoir gouvernemental se développe comme bureaucratie. Plus récemment, l'État hegelien a été reproché et certaines réflexions weberiennes, et les principes de la philosophie du droit ont été définis comme une philosophie de l'administration par Guy Tuilier. Cela étant, il ne s'agit pas de dévaloriser le rôle du Parlement ou du pouvoir législatif au profit de celui des fonctionnaires ou du gouvernement, mais de mettre en valeur que c'est uniquement grâce à une mécanique complexe que la sphère publique n'est pas à la merci des intérêts privés. Cela a des retombées aussi au niveau juridique. Il en résulte une conception non volontariste de la normativité, dans la mesure où ce n'est pas l'arbitre individuel qui crée les normes. Hegel prend ainsi le contre-pied d'une conception de la loi comme commandement du souverain, à l'instar du Léviathan hobbesien, mais au contraire, il réduit la démarcation entre législation et administration. En conclusion, comme le montre la notion des constitutions juridiques et son rapport à la constitution politique, la suprématie de l'État tient à son rôle de création et d'application, mais en même temps, les droits de la société civile sont foyers et peuvent ainsi se développer selon les exigences de celle-là, de manière partiellement indépendante des instances proprement politiques. Loin de faire alors d'Hegel les tenants d'un pluralisme juridique, nous pouvons souligner que, comme l'affirme l'écrivain, Hegel s'écarte d'une législation purement déduite à la manière d'une théorie pure du droit proposée par Kelsen. C'est pourquoi Hegel peut être rallié au monisme institutionnaliste, expression que j'emprunte à Norberto Bobbio. D'une part, le droit ne suffit pas à lui seul à assurer l'ordre, comme s'il accomplissait le rôle de main invisible de la société à la place du marché. D'autre part, l'État moderne, tout en étant un État légal qui a son appui dans l'autorité de la loi, n'est pas un ordre normatif autosuffisant. Je vous remercie.